Bonjour mes amis, comment allez-vous ce matin en ce lendemain de débat? Oh là 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 là, étiez-vous devant vos écrans les oreilles grandes ouvertes en ce 24 septembre au soir? Aujourd'hui 25 septembre, et bien évidemment il en est beaucoup question dans les journaux, mais cela dit, je ne vais pas faire la place qu'aux élections, loin de là. Dans ce magazine, les voix de service, parce qu'il y a aussi d'autres nouvelles, parfois réjouissantes ou parfois moins, comme par exemple celle qui nous vient de la presse. Alors, je vais un petit peu éplucher ce qui se dit à droite et à gauche dans tous les quotidiens montréalais en ce qui concerne ce lendemain de débat électoral. Et je reviendrai aussi sur la presse et sur les compressions de personnel obligatoires, dit l'éditeur, qui était tout sourire la semaine dernière alors qu'il annonçait que la presse en semaine allait disparaître, qui était un peu moins tout sourire, et les journalistes aussi d'ailleurs. D'ailleurs, personne ne s'exprime aujourd'hui parce que il n'y a pas vraiment d'éditoriaux sur le sujet, il n'y a pas vraiment de chronique parce que tout le monde est un peu en état de choc. Alors je reviens là-dessus durant la première demi-heure et bien sûr au milieu de tout cela je vais recevoir Christiane Campagna parce que j'imagine que ça réagit beaucoup sur le net. Alors aujourd'hui, en ce 25 septembre, bonjour Rémi.
Bonjour Clotilde.
J'imagine que vous avez fait vos petites recherches quotidiennes et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
J'ai fait mes petites recherches. Donc aujourd'hui, en ce 25 septembre, c'est pas la journée de quelque chose, mais c'est la nuit européenne des chercheurs. Ah. Je savais pas qu'il y avait des nuits de quelque chose. Okay. On fête les Hermann, donc c'est la Sainte Hermann. Mm-hmm. Prénom un peu plus courant que ce qu'on avait eu hier.
Ah oui, je me souviens déjà plus.
Ah mais Tecle et Afocle, un truc comme ça.
Antoche? Non, j'ai plus. On va oublier ça. On va oublier ça.
En 1989, les libéraux de Robert Bourassa sont reportés au pouvoir au Québec. Mm-hmm. En 2009, c'est le décès du cinéaste québécois Pierre Falardeau.
Ah oui, c'était déjà en 2009.
À 62 ans. Ça passe vite.
Aïe, aïe, aïe. 2009, Falardeau.
Et en 1960, Jean Drapeau formait le Parti civique de Montréal.
Oui, effectivement.
Et c'est aussi l'anniversaire de... comment on dit, l'anniversaire de décès?
C'est l'anniversaire de la date du, enfin, tout cas, ouais, c'est ça. Là, c'est ça.
Du pianiste canadien Glenn Gould.
Ah bah oui.
Qui nous sert aussi de temps en temps ici dans nos instrus.
Exactement, Glenn Gould, l'homme qui marmonnait quand il jouait. C'est vrai. Quand il jouait pas, qui marmonnait.
Il doit y avoir des enregistrements où on l'entend marmonner.
Exactement. Alors on va tout de suite s'embarquer sur les élections fédérales, ou plutôt sur ce lendemain de débat. Comme je vous le disais, toute l'émission ne sera pas concernée par cela, loin de là. Mais c'est quand même un passage obligé, même si j'entends énormément de gens, ne serait-ce qu'autour de moi, dire que oui, ils ont commencé à le regarder, mais que non, ils ne l'ont pas regardé jusqu'au bout, parce qu'ils trouvaient ça immensément triste. Que j'ai entendu aussi des gens dire dans un vox pop que vraiment ça alimentait leur cynisme. Ces débats politiques-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vous dirai pas ce que moi j'en pense parce que je ne suis pas là pour ça, du moins pas tout de suite, peut-être un petit peu plus tard quand je serai bien remontée. Mais là, je fais comme les hommes politiques, je vais faire semblant que je suis quelqu'un de très très calme. Très très calme et que rien ne me dérange. Alors rien ne me dérange et je ne dirai pas que c'était un simulacre de débat. Ah zut, je l'ai dit. Vous savez, ça, ce sont mes origines françaises. Moi, je veux dire, si on a à débattre, débattons, grand Dieu, faites-les sortir de leur gond, les Mulcair et autres Harper. On sait que ce sont des gens colériques. Allez, hop là, faut que ça sorte, ces affaires-là. Bon, ils ont dit pendant le débat... Monsieur Harper a dit à 0,54, peu importe, ce n'est pas le temps d'ouvrir les vannes. Ce n'est pas responsable. On doit maintenir notre système de sélection. Monsieur Mulcair, Je suis en faveur de la règle existante qui est qu'une femme doit se dévoiler avant de pouvoir se faire assermenter, bien sûr. Vous avez tout de suite compris de quoi il s'agissait. Monsieur Trudeau a déclaré pour sa part, depuis 10 ans avec Monsieur Harper, on s'est retiré. On est devenu plus mesquin, moins canadien à l'échelle internationale. Monsieur Gilles Duceppe à Thomas Mulcair, est-ce que le fédéral doit respecter la loi référendaire? Oui ou non? Elisabeth May à Stephen Harper, vous avez vendu notre souveraineté à la Chine avec l'accord entre le Canada et la Chine. Et puis, après le débat, Thomas Mulcair a dit « Je comprends que le niqab est une question très importante pour beaucoup de gens. » Je voudrais quand même rappeler ici qu'il y a un petit peu plus de 50 personnes qui portent le niqab au Québec. Mais la question dans cette élection, c'est qui a le leadership et l'expérience nécessaires pour défaire et remplacer Stephen Harper? Nous, on a un plan détaillé et solide. Moi, je pense que si vous regardez notre situation à travers le Québec, on continue à aller très bien. J'ai la confiance des Québécois qui me connaissent depuis très longtemps. Et vous savez quoi? Moi, je fais confiance aux Québécois, a déclaré Thomas Mulcair. Justin Trudeau a dit après le débat pour sa part, « La réalité, c'est qu'on sait très bien que c'est un enjeu de division, un enjeu identitaire, que M. Harper et M. Duceppe veulent soulever. » Pour moi, c'est très clair qu'une société qui ne trouve pas qu'un homme devrait imposer une tenue vestimentaire à une femme, pour être conséquent, l'État ne devrait pas imposer une tenue vestimentaire à une femme. Le Parti libéral est le parti de la Charte des droits et libertés et nous défendrons ces droits et libertés. M. Duceppe a déclaré « Ce n'est pas parce qu'il y a peu de femmes qui portent le niqab que cette question n'est pas fondamentale. C'est un droit sacré. C'est fondamental l'égalité homme-femme. Il n'y a pas de division au Québec sur ça. 90% des Québécoises et Québécoises sont contre ça. Les 4 autres chefs sont contre ça. Abandonnent les principes pour tenter de gagner des votes dans certains comtés. À Toronto, plus précisément. » Elisabeth May, enfin, a déclaré « Les politiques de M. Harper sont vraiment les pires. M. Mulcair et M. Trudeau ont une plateforme meilleure que celle des conservateurs, mais ce n'est pas aussi bien que le Parti vert. On doit faire plus que le Parti libéral ou le NPD. » On va aller voir ce que M. Marissal pense de tout cela. Eh bien, pour M. Marissal, c'est longue soirée, mais petit résultat. Impossible de dire qui a gagné ce débat plutôt fade hier soir, de Mme May ou de Messieurs Harper, Mulcair, Trudeau et Duceppe. Mais le chef bloquiste a profité de sa position de négligé et de sa grande expérience pour imposer les sujets, tandis que le chef néo-démocrate a pu s'en remettre à sa grande combativité pour marquer quelques points. Quant à Justin Trudeau et Stephen Harper, on a vite constaté les limites du premier en français et l'opportunisme du second sur la question du niqab. Ah oui, il y avait aussi, nous dit M. Marissal, Elisabeth May, dont le français ne s'est visiblement pas amélioré depuis 2011, mais qui a quand même réussi, lorsqu'on arrivait à comprendre ce qu'elle disait, à mettre le doigt sur les gros bobos du gouvernement Harper. Tout cela a donné pour finir un débat bien en deçà de ce à quoi on s'attendait ou de ce qu'on espérait et bien en deçà des enjeux de ces élections. Est-ce que ce débat change la donne? J'en doute, dit Marissal dans la presse. Aucun des chefs des 3 principaux partis n'a réussi à se démarquer de façon décisive. Dans les circonstances au Québec, le NPD n'a rien perdu hier soir et ses adversaires n'ont rien gagné. On va aller voir ce qu'en pense Manon Cornelier dans Le Devoir. Débattre pour sauver sa peau. Des 5 chefs qui ont participé au débat de jeudi à Montréal, 2 savaient leur sort étroitement lié. Le succès du néo-démocrate Thomas Mulcair et du bloquiste Gilles Duceppe dépendait de la déconfiture de l'autre. Cela aurait pu transformer des pans de la soirée en véritable duel. Ce ne fut pas le cas. Aucun des 2 hommes n'a pu jeter son adversaire au plancher. Thomas Mulcair, dit Mme Cornelier, toujours dans Le Devoir, bien sûr, s'est plutôt vu offrir par M. Duceppe l'occasion d'afficher des points d'accord, puisque le chef bloquiste a demandé à maintes reprises à ses vis-à-vis de prendre des engagements dans différents dossiers. M. Mulcair a ainsi pu rappeler qu'il défendrait la gestion de l'offre, reconnaîtrait un résultat référendaire de 50% plus un vote, créerait une caisse séparée pour l'assurance-emploi et ainsi de suite. M. Duceppe n'a pas pour autant cédé de terrain, le talonnant sur le projet d'oléoduc Énergie Est et l'exploitation des sables bitumineux. Et il a eu le droit à l'aide des autres chefs, en particulier de Justin Trudeau, lorsqu'est venu le temps de mettre en doute le réalisme de la promesse de M. Mulcair d'abolir le Sénat. En fait, c'est contre le chef libéral Justin Trudeau que M. Mulcair a laissé percer son exaspération, évoquant à plusieurs occasions le manque d'expérience de son rival. Et c'est le premier ministre sortant, Stephen Harper, qui a été le plus souvent sur la défensive, suivi de M. Mulcair. M. Harper a dû se défendre sur les affaires étrangères, les réfugiés syriens, l'environnement, les changements climatiques, l'économie, et j'en passe. Ce débat, nous dit aussi Mme Cornelier, a donné à M. Duceppe une visibilité qui lui fait défaut dans cette campagne, mais pour assurer la pérennité du Bloc, il devait assez briller pour ramener au bercail des milliers d'électeurs qui ont préféré le NPD au Bloc en 2011. « Je ne suis pas sûr, dit Mme Cornelier, qu'il y soit arrivé. » Le débat sur le port du niqab, on en a déjà parlé. M. Harper a été écorché, mais il a été fidèle à lui-même. Il a joué les cartes qui le servent bien dans les régions qu'il cible. Budget équilibré, baisse d'impôts, sécurité, niqab. Le chef libéral Justin Trudeau a tenu son bout, n'a pas perdu de plume, mais n'en a pas gagné non plus. Il a, comme lors des débats précédents, présenté son plan à chaque tournant et parfois à des moments incongrus. Il s'est lancé dans une défense de son plan économique quand il était question de l'aide médicale à mourir, faisant totalement dévier le débat, comme s'il n'avait pas assez à dire. Ce débat qui ne changera pas le cours de la campagne, mais il aura sûrement éclairé les électeurs francophones qui n'avaient pas encore eu la chance de voir les chefs s'affronter. C'est toujours ça de gagner. Je vais maintenant me tourner vers le journal de Montréal et lire une chronique. Est-ce M. Hébert ou est-ce M. Samson? Je vous reviens tout de suite là-dessus. Oui, d'abord, quelques mots cités par les uns et les autres. Par exemple, sur le port du niqab, M. Harper et M. Duceppe veulent jouer sur la peur et la division. Si un homme ne peut pas imposer sa volonté sur comment une femme s'habille, on ne devrait pas avoir un État qui impose comment une femme ne devrait pas s'habiller, a dit Justin Trudeau. On ne divise pas, on respecte cette volonté fondamentale, a dit Gilles Duceppe, qu'ont les Québécois de dire que les hommes et les femmes doivent être égaux dans la société. Monsieur Harper tente de cacher son bilan en arrière du niqab, a dit Thomas Mulcair. Et justement, le dit Monsieur Harper, qui a déclaré notre position depuis longtemps et que quand on se joint à la famille canadienne, on ne devrait pas se cacher. Monsieur Mulcair, jamais je ne vais dire à ma jeune fille qu'une femme devrait se couvrir le visage. Harper résiste, Mulcair performe. C'est l'avis de Michel Hébert dans le journal de Montréal. Cependant, il parle de longueur et de monologues. Ce débat d'hier soir ne passera pas à l'histoire. Trop de longueur, de monologues inutiles et les cassettes en français finissaient par tomber sur les nerfs. Mulcair n'avait qu'une chose en tête. Attaquer Harper le plus souvent possible, quitte à parler toujours fort, il a ignoré Trudeau ou tenté de le faire, mais le jeune leader libéral ne voulait pas qu'on le déclasse. Et à une pointe de Gilles Duceppe, il a répliqué cinglant « Vous ne pouvez pas faire une différence dans la vie des gens ». Le segment sur les règles entourant un éventuel référendum sur l'indépendance du Québec a provoqué les échanges parmi les plus intéressants. C'est l'avis de M. Hébert, je vous le rappelle, dans le journal de Montréal. Mulcair et Trudeau se sont coltaillés fermes sur la majorité nécessaire à un oui. Il ne parle pas de ça en anglais, a pesté Trudeau. À son tour, Duceppe a reproché à Mulcair d'avoir participé à la besogne pas toujours glorieuse du camp du non durant le référendum de 1995. Ce débat était quasiment surréaliste car le Québec n'est pas à l'aube d'un match revanche. Et d'un calme reptilien, Stephen Harper, j'aime bien le calme reptilien, Stephen Harper a déclaré « Les Québécois sont clairs, ils ne veulent pas d'un autre référendum ». Handicapé par la langue de Molière, la chef du Parti vert a connu son meilleur moment en accusant Stephen Harper de saboter les conférences sur les changements climatiques. Mais Harper a trouvé plus abrasives les attaques de Thomas Mulcair. Le chef du NPD l'a eu plutôt facile et n'aura souffert que durant les 7 minutes consacrées au niqab. Voilà, c'est l'avis de M. Hébert ce matin dans le Journal de Montréal. Bonjour Christiane.
Bonjour.
Ça va bien
oui, ça
en ce
va
lendemain
bien.
De débat. Vous l'avez regardé, vous?
Non, je l'ai suivi par les médias sociaux strictement.
Oui.
Et je n'ai pas eu l'impression de manquer grand-chose. J'ai une bonne idée de ce qui s'y passait. Mm. Écoutez, j'ai du matériel ce matin, je pourrais presque venir deux fois.
Vous gênez pas. On ne sait jamais. Peut-être. Enfin, en tout cas, parce que je ne voudrais pas non plus. Vous...
C'est qu'il y a les commentaires généraux et il y a tout un volet des francophones hors Québec qui ne sont vraiment pas satisfaits de ce débat.
Oui, c'est intéressant,
Et qui se sont mis particulièrement à réagir au moment où, justement, on a discuté de la question référendaire. Parce que pour eux, ça, c'était pas un débat pour les francophones du Canada, c'était un débat centré sur le Québec.
C'est vrai, d'ailleurs.
Et
Tout le monde le dit.
Beaucoup, beaucoup de réactions sur les médias sociaux à ce sujet-là. Des centaines de milliers de francophones hors Québec n'ont eu aucune mention ce soir. Québec, 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 qu'en est-il des francophones à l'extérieur du Québec? Bon, la question référendaire, a-t-on des meilleures choses à parler? C'est vraiment, les francophones hors Québec ont trouvé qu'ils étaient...
Oui, mais enfin, a-t-on parlé du Québec quand on a fait des débats à Toronto?
Non, mais c'est que l'idée, c'est que le débat francophone soit centré sur le Québec.
Ben oui.
Alors qu'il y a quelqu'un qui a carrément écrit... semblerait que 2,6 millions de francos, ce ne soit pas assez.
Non, c'est vrai, ils ont raison, hein, ils ont raison. Par contre, 50 femmes qui portent le niqab, ça, c'est suffisant pour créer...
Oui, c'est suffisant pour que certains partis fassent presque la promotion d'autres partis par la bande.
Exactement, exactement. Alors, sinon?
Sinon, ça avait commencé plutôt Nicolas Boisvert disant « ça va quand même faire bizarre d'avoir Harper répondre à des questions qu'il n'a pas choisies ». MC Gilles qui dit, c'est intéressant, le problème, c'est que les gens qui suivent le débat des chefs ont déjà leur préféré, parce que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup à la politique, souvent. Il dit, les autres regardent Vol 920 à TVA. Dès les premières phrases d'Elisabeth May, il y a le journaliste Daniel Leblanc qui a dit qu'elle avait fait la journée d'Infoman. Son prochain épisode était déjà rempli. Marie Vastel qui dit, il a suffi de 17 minutes pour que les chefs se lancent dans leur ligne et récitent leur plateforme.
Absolument.
D'ailleurs, ça amenait beaucoup de détournements de sujet. Paul Journé a souligné, si j'ai bien compris, M. Harper, au sujet de l'aide médicale à mourir, je vais baisser vos taxes.
Ouais.
Il y avait beaucoup de ça. Quand le niqab est arrivé, il y a Nicolette Hitley qui a écrit, oh le niqab, Twitter va bientôt exploser. Et on souligne beaucoup la cacophonie. Et il y a Bouchra Ouattik sur Facebook qui fait une capture d'écran, c'était intéressant. La personne qui faisait les sous-titres pour les malentendants, parfois écrivait carrément entre parenthèses « cacophonie
».
Parce que c'était impossible de tout simplement transcrire ce qui se passait là.
Mais vous savez quoi? Je trouve qu'il n'y en a pas eu assez, moi, de cacophonie. Mais c'est ce que je disais au début. Je pense que c'est dans mes racines. Parce que c'est vrai qu'en France, quand on débat, on débat. Là, on n'est pas les uns à côté des autres, à parler pendant 10 secondes, puis à sortir sa petite ligne qu'on a apprise par cœur. Moi, j'aurais voulu qu'on arrive à faire sortir M. Harper de ses gonds. On sait que ce type-là est un coléreux, un colérique, appelez ça comme vous voulez. On sait que M. Mulcair aussi est un type qui perd souvent son calme. Et là, Mulcair, ça a été à deux doigts à un moment donné contre Trudeau. Mais Harper, il était glacial, reptilien. J'aime beaucoup cet adjectif-là.
En fait... ce qui a beaucoup circulé sur les médias sociaux hier, c'est le fait que l'animateur, Patrice Roy, a dit « je vais utiliser un mauvais mot », comme si elle a utilisé quelque chose de très vulgaire, et il a dit « dégoûté ».
Oh! Il y en aurait eu... Moi, j'en aurais eu bien d'autres que ça, certainement, oui, effectivement.
Ça a beaucoup fait réagir que d'avoir appris que « dégoûté » était un gros mot.
Voilà. Est-ce que, vous me direz un petit peu plus tard, est-ce que ça réagit suite à cette annonce épouvantable dans la presse? D'ailleurs, je trouvais que, est-ce que c'est moi qui me fais une idée, mais Yves Boisvert était défait hier soir.
Je ne l'ai pas vu, mais ça a beaucoup, beaucoup réagi. Toute la communauté journalistique a réagi sur Twitter à ça et au décès d'Hugo Saint-Cyr.
Oui, bien sûr, dont on va parler aussi, évidemment, à ce magazine.
C'était les deux autres sujets hier, avant l'arrivée du débat.
Oui, exactement. Ah, oui. Non, c'est vraiment triste. Tenez, vous pouvez rester là pour la caricature de Serge Chapleau dans la presse. Qui se cache sous ce niqab? Alors, on voit quelqu'un qui porte un niqab. Alors, un, le petit Jérémy. Deux, Mike Ward. Trois, un propriétaire de Volkswagen Diesel. Rigole, en fait. Non, c'est beau. C'est parce que là, j'entendais sur la musique, ça rigolait. Merci beaucoup, Christiane. Écoutez, si vous avez l'occasion, vous revenez, vous ouvrez la porte, puis vous me dites donc, là, j'ai quelque chose, et puis on s'organisera toujours. Ça vous va comme ça?
Tout à fait.
D'accord, alors à plus tard. Christiane Campagna, on va continuer à développer quelques titres. Oh non, j'ai un sujet que j'aime beaucoup sur les élections, ça s'appelle « Traquer le mensonge ». C'est Isabelle Paré dans Le Devoir qui signe ce papier. Les outils d'intelligence artificielle, le cauchemar des politiciens. Les politiciens, dit Madame Paré, n'ont qu'à bien se tenir. Lors de débats, les chefs de parti disposent d'armées de conseillers, hein, ça on le sait, pour aiguiser et épurer leurs discours de tout irritant potentiel. Mais le futur n'est pas si loin, où des outils d'intelligence artificielle pourront décrypter en temps réel les contradictions des hommes politiques, leur semi-vérité et leur mensonge par omission. D'ici quelques années, plus d'un élu pourrait regretter l'époque où les cracks d'informatique s'intéressaient davantage aux données confidentielles des abonnés de sulfureux sites de rencontres. Dans les murs du laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur, ça s'appelle le LIMSI, affilié au Centre national de recherche scientifique de France, un chercheur et maître conférencier qui s'appelle Xavier Tanier vient d'obtenir un Google Award pour développer, écoutez bien ça, un puissant outil de traitement automatique des langues capable de digérer les masses d'informations liées au discours d'un parti ou d'un homme politique parsemé tant sur le web, sur les réseaux sociaux que dans les médias. Alors avec l'aide d'une équipe de journalistes du Monde, ce chercheur-là planche en ce moment sur cet outil qui, espère-t-on, pourrait en un éclair démêler le vrai du faux, débusquer les déclarations troubles ou même les bourdes. Il dit, ce chercheur, le but de cette application est d'aider les journalistes et les citoyens à comprendre pourquoi les hommes politiques ne disent pas ce qu'ils pensent, mais répètent ce qui est formaté selon chaque parti. Il s'agit uniquement de décoder le discours politique. Ce dépisteur de bobards, comme l'écrit Madame Paré, fouillera bien au-delà de la sphère aujourd'hui scrutée par les moteurs de recherche traditionnels. Ce type d'intelligence artificielle sera beaucoup plus puissant, explique-t-il, et pourra détecter dans des masses immenses d'informations des vocabulaires ou des marqueurs d'opinion qui émergent lors d'un événement précis. On pourra voir si une personne s'écarte de la ligne de son propre parti ou de ses déclarations précédentes. Notre but est de réaliser des analyses très fines par rapport aux différentes opinions politiques, soutient ce dernier. Financé pendant un an par le géant Google, le projet devrait servir à faire naître un outil de détection et d'analyse du langage politique à temps pour les présidentielles françaises de 2017, espère-t-il. Le but n'est pas de remplacer les journalistes qui font déjà de la vérification des faits, mais de décrypter davantage l'information. Ces machines n'auront pas la capacité de raisonner ou d'analyser, mais pourront fournir la matière recherchée par les médias. Pas un mot ce matin, ni chez les chroniqueurs, ni chez les éditorialistes, sur ce nouveau contexte d'affaires qui oblige la presse à se départir de plus d'une centaine de ses employés. Je le disais hier, j'avais l'impression que Yves Boisvert était complètement ravagé hier soir. Peut-être que je me trompe, c'est peut-être une fausse opinion. Ce que je sais, c'est que Michel Ouimet, par exemple, que j'ai déjà accueilli d'ailleurs ici à l'émission des livres pleins les oreilles, qui s'appelait dans le temps Un livre découvert, il paraît que Michel Ouimet était complètement dévastée. Elle a déclaré que depuis qu'elle est à la presse, et Dieu sait si ça fait longtemps, c'était la pire journée de sa vie en tant que journaliste chroniqueuse. Alors, il y a aujourd'hui un mot du président et éditeur qui est paru dans la presse que je voudrais vous lire, qui s'intitule « S'adapter au nouveau contexte d'affaires ». Je vous le disais, pas d'opinion encore ce matin. La semaine dernière, nous avons annoncé que la presse compléterait son virage numérique le 1er janvier prochain avec le remplacement de la presse papier du lundi au vendredi par la presse plus. Cette importante décision vient inévitablement modifier nos besoins en main-d'œuvre. Aujourd'hui, lors d'une rencontre avec nos employés, nous avons annoncé qu'en raison de la fin de la presse papier en semaine, de l'adoption d'un modèle numérique et du contexte de la crise des médias en général, nous devrons malheureusement procéder à une réduction de nos effectifs qui touchera 102 emplois réguliers et 56 emplois temporaires pour un total de 158 emplois. Les postes touchés sont des emplois syndiqués, non syndiqués et de cadres et proviennent de tous les secteurs de l'entreprise. Les employés concernés ont été rencontrés hier et auront accès à des mesures de soutien. Les départs respecteront les conventions collectives en vigueur, notamment en ce qui a trait à l'ancienneté. La presque totalité des départs aura lieu dans 3 mois pour janvier 2016. À l'issue de cette réduction d'effectifs, la presse comptera 633 employés réguliers. En 2011, nous avons choisi d'investir massivement pour développer l'application La Presse Plus, de la déployer, d'assurer sa mise en marché, de répondre aux besoins supplémentaires des annonceurs et des lecteurs et surtout d'être en mesure d'exploiter simultanément deux plateformes, la presse papier et La Presse Plus. Pour répondre à la demande, nous avions alors procédé à des embauches importantes. Aujourd'hui, nous retournons dans un environnement à une seule plateforme principale avec un nouveau modèle d'affaires. Après les départs, le nombre d'employés réguliers sera équivalent au niveau de 2011 pour l'ensemble de l'organisation. Deux principes ont guidé la presse depuis l'impartition de son impression en 2003, dit toujours Guy Crevier, président et éditeur de la presse, soit donner la priorité à la qualité de l'information et offrir un environnement performant aux annonceurs. L'annonce d'aujourd'hui touche 43 postes à la rédaction. Malgré ces départs, la presse disposera encore de la plus grande salle de rédaction au Québec avec 283 employés réguliers et temporaires en comparaison de 239 en 2011. Elle demeure ainsi l'une des rares en Amérique du Nord à avoir connu une augmentation de ses effectifs au cours des 5 dernières années. Je souhaite souligner, dit M. Crevier, la contribution et l'appui des employés concernés par cette annonce. Ils ont fait un travail remarquable dans un contexte exigeant de changement et nous leur en sommes reconnaissants. L'avenir de la presse passe maintenant par La Presse Plus. Avec notre modèle 100% numérique en semaine, l'entreprise dispose désormais d'un modèle d'affaires viable et de fondations solides. Je regrette, nous ne savons pas qui sera exclu. J'imagine qu'il y a des gens que je lisais assez régulièrement. C'est un petit deuil, hein? Un gros deuil pour eux, un petit deuil, un tout petit deuil pour moi, bien sûr. Je ne peux pas me mettre à pleurer plus que ces 46 personnes à qui on va souhaiter la bonne année en 2016 et qui auront perdu leur travail. C'est la vie, mes amis.
Voir les fauves tourner en rond et se déchiqueter pour juste une poignée de fric. Rentrez dans le moule de l'Amérique, allez saignez-vous donc en musique.
Donnez-nous du lisse, de la guimauve ou du réglisse. Donnez de l'image à bouffer, pré-mâcher et pré-digérer.
Donnez-nous du vice, surgelez nos vieilles idées. Vive mon frigo, vive ma télé, il est plus vide qu'elle est blindée. Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, 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 sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
Étalez la maille, montrez qu'il y a que la thune qui vaille. Noyez-nous de publicité, engraissez-nous jusqu'à
éclater.
Mettez-nous les nerfs, étalez les femmes et leur chair. Blindez des plus beaux apparats, excitez-nous, excitez-nous. Rendez vos sponsors, à tout bout de champ, ça pue la mort. Gerbez nos envies, nos désirs, empêchez-nous, empêchez-nous de partir.
Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service. Allez séquestrer nos esprits et souriez, tout est permis. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux, même mon chiot en est devenu fou. Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, 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 sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût. envie de réfléchir à coups de concepts débilissimes. Allez cracher nouveaux millésimes. Je suis accro.
Conserver les coquets ou bien ronds, c'est le zoo des animateurs. Leur donner pas de bouffe,
c'est pas l'heure.
C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver. C'est pour nous, c'est pour nous.
Divertir.
Donnez-nous de la meuf décolorée, les en jaune de phale. Et souris-moi, et faites gicler vos proies. Sortez-les poubelles.
Sortez les ordures télévisuelles.
Sentez-les
au ciel. Oh non, je suis accro.
Donnez-nous des stars de celles qui crachent dans leur bavoir et filmez leur fête minable au fin fond de leur bac à sable. Et lâchez vos bombes de celles qui sont nauséabondes, inondez nos vies, nos foyers. Vous êtes si présents qu'on est teubés. Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à vous. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Jaloux, même le chiot en est devenu
fou. Sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
Bref.
Bonjour tout le monde. Est-ce que nous sommes en onde?
Ah, oh, ben nous sommes en onde. Mais nous...
Non, excuse-moi, j'avais enlevé mon petit casque parce que je parlais à mes deux collaborateurs qui viennent d'arriver en studio, Jennifer Vignery et Charleroi. Vous allez bien, vous deux?
Ça oui, va très bien.
Alors, on va vous souhaiter la bienvenue. Ça, j'en prendrais pendant une heure et je pense que je m'en lasserais pas. Je pense que dans une autre vie, c'est moi qui jouerais du pom, pom, pom.
Et nous, on arriverait comme ça derrière.
Il me semble que je ferais ça, moi. Quoique, quand on en joue, on ne se rend pas compte. En plus, c'est très, très lourd. Hein. Ça prend un bon dos. Me dis pas, Rémi, avec la carrure que tu as déjà joué de cet instrument.
J'ai essayé. Ça ne veut pas dire que ça a été succès.
Un succès, non, c'est ça. Ah, finalement, tu as choisi quoi? La flûte piccolo ou... Non?
Le triangle, c'est le plus à m'apporter.
Moi, j'ai une anecdote. Quand j'étais au secondaire, le plus petit garçon de ma classe s'appelait Nicolas et on devait choisir les instruments. Puis lui a choisi le tuba, mais on ne le voyait pas. Puis à chaque fois, il devait déposer son énorme tuba pour voir le chef d'orchestre. C'était vraiment drôle.
En ce qui concerne le triangle, contrairement à ce que vous pensez, c'est sûrement un des instruments les plus durs, surtout en orchestre symphonique. Le mec, il n'arrête pas de compter. Parce que parfois, il a juste un coup à donner. Sauf que le coup, il faut
savoir quand mettre.
Alors, c'est... Bon, écoutez, trêve de plaisanterie. Non, mais ça fait rien. Regardez, on commence déjà à parler de musique, à parler de tout ça, parce que nous sommes vendredi et que le vendredi, j'accueille ces deux collaborateurs, Jennifer et Charles, pour surtout aborder un volet culturel. Qu'est-ce qui se passe en ville? Alors, en gros, vite fait, vous allez nous parler de quels événements?
Pour ma part, en musique, il va y avoir des découvertes musicales dont Lana Del Rey, Yannick Rieu et le groupe Out. Et puis, parce que j'adore Serge Gainsbourg et je pense que je ne suis pas la seule, mercredi, il y a eu la lecture de ces textes.
Hier, jeudi.
Hier, oui, c'était hier. Il y a eu la lecture de ces textes où on a enlevé la mélodie derrière on a juste lu ces textes, donc je vais revenir dessus. Il y a aussi le festival du film Stop Motion. En ce moment, dont je voudrais parler. Et si on a le temps, pourquoi pas une petite sortie cinéma avec le film Scratch.
D'accord. Charles?
Moi, je vous parle de deux sorties théâtrales. Premièrement, Monsieur Chasse, qui est au Théâtre du Rideau Vert en ce moment, une pièce de Georges Feydeau. Donc, c'est un vaudeville, ça bouge beaucoup. Ouais. J'ai eu la chance de le voir, c'est assez fabuleux, je vais vous en parler. Aussi, une autre sortie théâtrale, cette fois-ci à Québec, Bousiller les Justes de notre Gracien Gélinas National.
National.
Et bien, c'est une relecture, pas une relecture, là, on s'en tient tient au texte, mais on replonge dans cet univers-là des années 60.
Et j'imagine que si vous allez nous faire un petit panorama de ce qu'on peut faire, entre autres, vous allez nous suggérer quelques sorties pour les journées de la culture qui vont commencer en fin de semaine.
Aujourd'hui, c'est ça.
Et ne vous inquiétez pas pour la météo. C'est un peu grisouné pour l'instant, mais tous les nuages vont être chassés d'ici ce soir. Oh, j'ai osé dire vont être chassés, ça c'est très difficile à la radio, mais j'ose le dire. Alors on va décider qui commence, tiens. Alors, ça a été long. On s'est dit, oh non, toi, finalement. Non, c'est même pas vrai, Jennifer.
Oui, alors, donc, je le disais en introduction de l'émission, je vais commencer avec des découvertes musicales parce qu'il y a des albums qui sont sortis tout récemment dont j'aimerais vous parler et vous faire découvrir. Le premier, c'est celui de Lana Del Rey avec son album Honeymoon. La sirène américaine nous revient avec un solide troisième album, un son plus achevé et cohérent en carrière. Lana Del Rey, et c'est une force de la nature, ça on le savait déjà, spécialiste des chansons aigres douces et aux textes à la fois cool et probablement assez profond pour ne pas se démoder. L'auteur, compositrice, interprète pourrait se cantonner dans des ballades larmoyantes, mais elle choisit d'oser notamment avec des complets presque rappés et l'insertion d'instruments rarement utilisés par ses contemporains. C'est le cas sur Music to Watch Boys 2, probablement l'une des meilleures chansons de l'album, qui intègre de la flûte traversière avec brio, une première en pop, et les instruments à cordes viennent aussi ajouter une bonne dose de pathos comme pour envelopper ces textes déjà sensuels et bourrés d'émotions. Donc je vous propose tout de suite une petite découverte de cette chanson, si on a ça, et je pense qu'on l'a.
Oui, on l'a. Hein.
J'ai pas catché, excusez.
Alors, la chanson, nous parlons de Lana Del Rey.
Regardez les photos de tuba, là,
il était encore avec le tuba et le triangle. Non, j'ai parlé de flûte traversière, c'est pas mal aussi, quand même.
Oh, c'est la meilleure de l'année.
Je m'attendais à ce qu'on parle de triangle.
Lana Del Rey.
Lana Del Rey.
Oui, on aime ça, hein, le soir et tout, quand on veut se reposer,
c'est
quand on veut
apaisant,
se détendre.
Oui. C'est très apaisant.
Et c'est très acoustique, hein, d'après ce que vous disiez.
Surtout, elle change un petit peu son style. Et du coup, elle nous propose donc cet album-là qui s'appelle Honeymoon. Et la chanson dont qu'on vient d'écouter, grâce à Rémi, c'est Music to Watch Boys 2.
OK, d'accord.
Merci, Rémi.
Charles, on change de sujet complètement.
Oui, le festival Phil est commencé. En fait, a commencé le 24 septembre dernier. Ça se déroule jusqu'au 4 octobre. Et ça vous donne l'occasion de découvrir les auteurs de tous les horizons. Il vous donne rendez-vous à vous, au public, pour la 21e édition. Ça fait déjà 21 ans que le festival nous fait rêver, découvrir et surtout nous donne envie de lire.
Oui.
À la tête de ce bel événement, en tant que directrice générale et artistique depuis ses débuts, il y a Michel Corbeil qui a accepté de livrer quelques mots, dans le fond, au Huffington Post. Mm-hmm. Et on lui a posé la question « Que lègue-t-on dans ce festival? Qu'est-ce qu'on donne aux mm-hmm. spectateurs? » Et elle répond que, ben, que jamais en fait de thématique. Chaque année, des lignes se dressent. On lui propose des projets, mais enfin, elle réalise qu'elle choisit toujours des choses qui la touchent instinctivement.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, elle est allée avec des événements qui la touchent, qui se passent dans l'air du temps. En voyant des grands sites culturels être détruits par l'État islamique, par exemple, elle a été catastrophée. Mon ouais. petit-fils, par exemple, ne pourra jamais visiter ces endroits. Mm. Elle n'aura que ma parole et mes souvenirs.
Mm-hmm.
Et voilà, si vous voulez vous y rendre, c'est l'occasion aussi d'entendre ces livres-là qui, des
oui.
fois, sont muets.
Sont hein. lus, oui, c'est oui. ça. Et c'est pour ça que ça me semble intéressant. Vous savez ce que je vous invite à faire On va passer la parole à Jennifer, qui va, elle, nous faire une critique, justement, parce que dans le cadre du fil, hier soir, il y avait un spectacle. Malheureusement, c'était juste un soir. Quand même, la visite unique de Jane Birkin, la visite unique aussi de Michel Piccoli, qui a quand même 80 et quelques années. Ça me surprendrait qu'on le revoie beaucoup ici. Et donc, avant de lui céder la parole, allez donc faire un petit tour. Je voudrais que vous nous parliez peut-être de la programmation en ce moment. J'imagine si vous allez sur Safari, vous allez voir programmation du fil et vous pourriez peut-être nous dire ce que, par exemple, ce soir ou demain, on pourrait aller voir, entendre et écouter.
Je vous encourage.
Alors Jennifer, soirée Gainsbourg, sans Gainsbourg et sans musique hier soir.
Et oui, exactement. C'est assis derrière une table et en toute simplicité que Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé Pierre ont récité certains textes tirés de l'œuvre de Serge Gainsbourg, mm-hmm. le tout dénudé de musique afin de laisser place au poète qu'il mm-hmm. était. La muse de Gainsbourg et ses deux acolytes ont présenté cette lecture en ouverture du Festival international de la littérature.
Il fut un temps où avec Gainsbourg, on aurait dit « et ses deux alcoolique.
Ouais.
Mais là, comme il est plus là,
j'ai pas fait le lapsus. Hein. J'ai écrit bien en gros acolyte. Et donc ça s'est déroulé donc c'est dans le cadre du Festival international de la littérature qui commence le 24 septembre et qui prendra fin le 4 octobre à Montréal. Uh-huh. Et l'idée a germé alors que Madame Birkin s'était fait proposer de faire son spectacle arabesque deux soirs de suite et elle a trouvé que c'était plus intéressant de faire un soir avec les textes de Serge Gainsbourg.
Allez-y, pardon.
Non, voilà, je voulais qu'on écoute un petit peu de Serge Gainsbourg.
Oui, bien sûr. Je voudrais préciser pour les gens de Québec, ça va être présenté à la salle Albert Rousseau. Là, est-ce que c'est samedi ou dimanche? Je me souviens plus, mais ça aussi, on va aller vérifier ça pour vous. Et en attendant, oui, un petit peu de Gainsbourg.
Ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer toute bracelet, jolie bracelet. À tes pieds ils se balancent, couleur café.
Oui, Gainsbourg a été repris par tout le monde, y compris par son propre fils, hein, Lulu Gainsbourg, qu'on vient d'entendre entouré de quelques-uns de ses acolytes chanter « Reprendre couleur café » de Serge Gainsbourg. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose sur le fil?
Écoutez, oui, 44 pages à vous résumer en quelques minutes.
Rien que ça.
Non, mais regardez
bien. Non, mais dans la programmation, je parle à un truc qui vous aurait peut-être frappé, pourrait proposer une sortie.
Ah oui, ce soir, à la Grande Bibliothèque, c'est à Montréal, donc Maisonneuve-et-Berry, vous pourrez voir « Le paradis n'est-il pas une bibliothèque? Un voyage littéraire et visuel au cœur des bibliothèques.
Oui. »
En quelques mots, qu'elle soit constituée de quelques livres ou de volumes par milliers, qu'elle soit publique ou privée, la bibliothèque est la maison du livre, le paradis du lecteur. Elle est considérée par certains comme subversive. On a souvent voulu la détruire, comme ce fut le cas du saccage de la bibliothèque d'Alexandrie, des autodafés sous l'Inquisition, le coup d'État au Chili ou le régime nazi. On parle aussi des saccages de l'État islamique. Afin de souligner les 10 ans de la Grande Bibliothèque, ce spectacle est composé d'extraits d'œuvres littéraires, photographiques, cinématographiques, évoquant tout autant notre amour des bibliothèques qui la menace de la disparition. Donc, c'est une invitation à les fréquenter, à rencontrer ces lieux-là où on se rassemble. C'est 20 $ par personne et c'est, vous pouvez réserver en ligne ou vous présenter sur place. Le spectacle est à 20 h, donc ce soir.
Et on sait que c'est accessible à la Grande Bibliothèque, alors c'est important. Pour faire suite à vos propos, c'est une, moi, je trouve que c'est une triste nouvelle pour Québec. Vous savez, le Colisée du livre, cette espèce de magasin qui vend des livres vraiment pas chers, à parfois 50, 70 %, 80 %, et de tous les livres, BD, livres de poche, livres de collection, eh bien, le Colisée du livre a accueilli ses derniers clients hier à Québec. Oh. Il ne reste, et ça, c'est ce qui me rend triste, il ne reste que quelques meubles à démolir et quelques bouquins à balancer aux ordures. La clé sera mise sous la porte mardi prochain. Depuis le début de la semaine, la plus grosse vente en ville était sur la rue Saint-Jean. C'était rabais 100%. Autrement dit, ils donnaient les livres au royaume du livre usagé. En plus, pour ceux qui viennent aujourd'hui, c'est un 2-pour-1, s'exclamait le maître des lieux, Sylvain Roch, hier au passage au soleil. Aujourd'hui, le grand débarras est cependant fini, sauf qu'il en restait beaucoup. Alors tout ça va passer au pilon, va passer... et ça, je trouve ça toujours immensément triste. Alors, on s'en va vers quoi, les amis, maintenant?
Allons-y avec Monsieur Chasse, tiens.
Alors c'est là qu'on devrait ouvrir la porte, fermer une autre porte et faire un va-et-vient de gens qui traversent la Seine, qui tout ça, hein?
Ouais, exactement. J'aurais voulu, mais j'ai pas eu le temps là, de trouver un extrait de Bugs Bunny qui avec le chasseur là essaie de l'embobiner finalement. Mais en fait c'est Monsieur Chasse, c'est quoi cette histoire là? Ça se passe dans un appartement riche. Et là, je vais vous lire l'article, ça décrit
oui,
bien
d'accord.
Cette histoire-là. Ce sont des mensonges, des quiproquos, des mesquineries, des portes qui claquent, bien sûr, qui se succèdent à un rythme infernal dans la pièce Monsieur Chasse. C'est une mise en scène de Denise Filiatro qui est présentée jusqu'au 10 octobre au Théâtre du Rideau Vert. C'est Samuel Pradi qui nous en parle dans le c'est où? C'est le canoë, canoë.ca.
D'accord.
Vaudeville, par excellence, ce spectacle est une machine bien huilée et, en effet, dans laquelle les rebondissements n'attendent pas les réparties cinglantes et les situations loufoques. L'art du comique de situation est parfaitement maîtrisé, ainsi que le sens du punch. Tout commence lorsque Duchotel, joué par René Gagnon, un bourgeois parisien, décide de partir à nouveau à la chasse. Sa femme, Léontine, une Diane Lavallée merveilleuse, tout à fait dans son corps, reste à la maison accompagnée de l'ami de la famille, le docteur Morisset. Ce dernier lui a déjà fait des avances et espère davantage, mais elle refuse.
Qui joue docteur Morisset?
Ah, c'est Carl Béchard. Oui.
Ah oui!
Il est vraiment incroyable, là. D'un bout à l'autre de la pièce, il n'arrête jamais. Et on le voit à la fin, là, il est tout essoufflé, là, mais son personnage aussi, c'est merveilleux de le voir aller. Son mari, donc, lui est fidèle à Madame Léontine, donc elle le sera aussi. La situation va toutefois prendre une autre direction lorsque Cassagne, l'ami cocu avec lequel le mari était censé aller à la chasse, débarque chez elle pour lui dire qu'il a monté un guet-apens à sa femme et son amant. Au fil de l'action, tout ça s'accélère lorsque tout ce beau monde se retrouve physiquement dans le même immeuble, tenu par une ancienne comtesse déchue, France Castel, et elle est merveilleuse dans son costume, la même nuit.
Mais c'est un rôle fait pour elle, ça. Bah, écoute, oui. Qui d'autre que France Castel aurait pu jouer ça? Ah,
ouais,
c'est génial.
Vraiment. Denise Filiatro choisit d'en faire une mise en scène traditionnelle à la limite du burlesque. Elle dédie d'ailleurs cette production aux grands comiques comme Manda Parent, Rose Ouellette, Olivier Guimond, oui. Gilles Latulippe. Mais on voit tout à fait ces influences-là dans ce spectacle-là. Ce parti pris montre toutefois que le texte et le propos ont vieilli, même si les ressorts comiques fonctionnent toujours à merveille. Les rires éclatent d'ailleurs constamment dans la salle tout au long de ces trois actes. Diane Lavallée et Carl Béchard, qui avaient joué cette pièce ensemble en 99, s'en donnent à cœur joie. La pièce incarne une Léontine intègre, mais pas aussi dupe qu'on pourrait le penser. Hein. Le second est excellent aussi dans le rôle de Morisset, qui courtise sa femme, la femme de son ami, mais qui va se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est tout là le génie de Feydeau. Alors, ouais. Si vous voulez y aller, c'est jusqu'au 10 octobre au Théâtre du Rideau Vert. Allez-y, c'est merveilleux.
Ah oui, oui, non, moi, je ne veux vraiment pas rater ça. Mais Feydeau, c'est ça, c'est que... Et vous avez raison de le dire, Charles, c'est complètement génial. Mais si c'est mal joué, là...
Oui, oui.
Mais... Il faut que ce soit des grosses bêtes, là. Il faut que ce soit... Hein, il faut, hein, ça prend du Béchard, ça prend du Diane Lavallée. Mais l'instant
se rend compte dans ce spectacle-là, je vous le dis.
D'accord. Où est-ce que vous nous amenez, Jennifer?
Eh bien, en ce moment, c'est le 7e festival du film de stop motion. Alors, le stop motion, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une technique d'animation qui permet de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. Et jusqu'à ce dimanche, les cinéphiles pourront entrer dans l'univers de l'animation image par image grâce au festival du film de stop motion de Montréal.
Okay.
C'est une initiative qui découle d'une envie toute simple. J'allais dans des petits festivals de films d'animation, mais je ne voyais pas assez de stop motion. Je revenais toujours avec un petit pincement au cœur, confie Éric Goulet, directeur de l'événement. Depuis sa création en 2009, le festival a pris de l'ampleur. Cette année, 88 courts-métrages de 26 pays sont en compétition. Mais pour Éric Goulet, le festival, c'est surtout mettre l'emphase sur le talent montréalais. D'ailleurs, parmi les rencontres proposées, on note celle avec les professionnels du nouveau Petit Prince, équipe dont fait partie le fondateur du festival. Ce voyage dans les coulisses du long métrage, proposé majoritairement en anglais, permettra d'admirer les 9 marionnettes confectionnées à Montréal. D'autres réputés artistes ont accepté de parler de leur succès, comme les réalisateurs de PES et Cordell Barker nommés aux Oscars. Et de nouveaux talents pourraient aussi être découverts durant ce week-end par le biais d'ateliers pour se familiariser avec cette technique d'animation image par image. Donc voilà, donc en 2015, il y aura la sortie. On n'a pas encore la date exacte, mais on sait que c'est avant la fin de l'année du Petit Prince. Et ouais. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très, très joli à voir au cinéma.
Merci, Jennifer. Charles, une petite brève avec ça?
Oui, c'est les journées de la culture. Ben, je vous invite à sortir vos enfants, ou ouais. Que vos enfants vous sortent, c'est selon. Là. vous pouvez aller à Terrebonne assister à l'activité La peinture en papier recyclé. Les réservations sont requises. Qu'est-ce que c'est cette activité-là? C'est comment fabrique-t-on le papier? Comment le recycle-t-on? De façon amusante et inusitée, nous vous ferons la démonstration et les plus curieux pourront même participer à la réalisation de l'expérience. Par la suite, place à la créativité avec la réalisation d'une des œuvres les plus appréciées de tous, la peinture en papier recyclé. Mais qu'est-ce que c'est? J'en ai vraiment aucune idée, je suis désolé. Laissons aller notre imagination et trouvons dans les bacs remplis de papier tout ce qu'il nous faut pour réaliser notre chef-d'œuvre. À l'aide d'une image choisie selon nos goûts, nous verrons apparaître sous nos doigts une toile unique née de notre imagination. L'œuvre est ensuite présentée dans un cadre et prête à rehausser notre décor. C'est samedi, donc demain, de 13h30 à 14h30 à la bibliothèque de La Plaine. Je vous donne le numéro de téléphone pour la réservation. On suggère, c'est pour les enfants de 5 à 12 ans. Donc le numéro de téléphone, c'est le 450-961-2001. 450-961-2001.
Et je précise que si vous voulez tout savoir des Journées de la Culture, il y a un site internet, hein, c'est tout facile, il n'y a pas d'accent évidemment, tout en minuscule, journée au pluriel de la culture.qc.ca. Journée de la culture.qc.ca. On a les moyens quand même en France. Il y a des gens en ce moment qui s'insurgent parce que, vous savez, l'œuvre d'art qui est apparue au coin de Pie-9 et Henri Bourassa, là-haut, là, l'espèce de... Vous n'avez pas entendu parler
non,
de ça. C'est une œuvre d'art, on en a parlé ici à l'émission, qui ressemble à une grande roue. Et là, tout le monde fait « Oh mon Dieu, c'est dégoûtant, ça a coûté 1,1 million de dollars. » Mais sauf que ça revient à des artistes québécois. Alors, bon, bah, après tout, pourquoi pas? Mais là, la France paierait 80 millions d'euros pour un Rembrandt. La France est prête à débourser 80 millions d'euros, autrement dit 120 millions de dollars canadiens, afin d'acquérir pour le compte du musée du Louvre un tableau de Rembrandt mis en vente par la famille Rothschild, a annoncé jeudi le ministère de la Culture. Cette proposition a été soumise aux propriétaires et l'opération bénéficiera du mécénat exceptionnel de la Banque de France, précise le ministère dans un communiqué. La famille Rothschild souhaite vendre deux portraits datés de 1634, représentant deux notables Stella. Et ce sont les voix de service qui se poursuivent sur Canal M, toujours en compagnie de Jennifer, de Charles et de Clotilde. Et je m'aperçois que je vous ai appelé Jennifer, c'est ridicule, elle est française, elle s'appelle Jennifer, c'est tout. Non mais c'est fou, hein, comme en 30 ans de Québec, ça vous change. Bon alors, mes amis, vous avez une brève, hein,
oui,
justement Jennifer,
petite,
un truc vraiment sympa.
Oui, effectivement, sachez que c'est la 25e édition du gala Humour Aveugle. Humoristes de la relève et de renom se réuniront pour ce 25e gala Humour Aveugle qui vise à ramasser des fonds pour les enfants atteints de cécité. Animé par François-Pierre Tremblay et Stéphane Poirier, ce spectacle promet au public des numéros hilarants et la présence d'André Sauvé, d'Abik Akiladet, de Patrick Grou, de Mike Ward et plus encore. Ça débute ce soir et demain à 20h au Théâtre Saint-Denis.
Eh bien moi je trouve que débuter cette seconde partie par une aussi bonne nouvelle, est-ce qu'on sait combien de temps ça va durer? Parce que ça débute deux soirs. Donc ce soir et demain
à 20h.
On espère qu'il reste des billets. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un collectif d'humoristes qui offre ce spectacle pour amener des fonds pour lutter contre la cécité enfantine. J'aurais dû dire infantile, j'aurais été mieux. Alors, je me tourne vers Charles Roy et on poursuit dans le domaine culturel, Charles.
Oui, je vais vous parler d'un théâtre, mais cette fois-ci, c'est à Québec, à l'Abordé. Ouais. Je parle rarement de Québec au théâtre, mais c'est que beaucoup de choses se passent à Montréal.
Ben oui.
Là, c'est difficile de
mais
de
beaucoup de choses se passent à Québec aussi.
Bah, oui, c'est ça, exactement. Et je propose qu'on mette l'extrait de la bande-annonce du spectacle.
Ah,
c'est en entrée
d'accord.
De jeu.
On allait oublier un de vos témoins récalcitrants, Blaise Belzile, mieux connu dans le monde du vice organisé sous le nom de Bouzille. Le procès d'Aimé Grenon de Saint-Tite de Champlain. Grenon est accusé d'avoir causé la mort de Bruno Maltais.
Faut pas qu'on me résiste, vois-tu? Il y en a qui sont comme ci, moi je suis comme ça.
Je suis pas intelligent, je le sais. Prenez-en donc votre parti.
Inutile de chercher plus pourri que nous autres, vous perdez votre temps.
C'est pourquoi j'ai tellement peur de me tromper en témoignant demain.
Bande-annonce, hein, de Bouzille, elle est juste. Ça fait, oui. C'est tellement chouette de pouvoir entendre l'ambiance d'un spectacle dont vous nous parlez. J'apprécie beaucoup, vraiment.
Ah, tout à fait, mais je suis content que la bande-annonce ait été là, que je suis tombé dessus. Écoutez, ça raconte, pour ceux qui ne l'ont pas compris, parce que l'histoire est un peu complexe, là, c'est la famille de Grenon de Saint-Tite qui est à Montréal pour assister au procès du plus jeune fils, Aimé, accusé du meurtre d'un rival amoureux. Ils sont prêts à tout pour faire acquitter Aimé et ainsi sauver leur honneur. Mais l'issue du procès repose sur la version des faits que Bouzille, cousin éloigné et seul témoin des événements, donnera en cours. Cette famille respectable et bien-pensante n'hésitera pas à recourir à l'intimidation et au chantage pour inciter Bouzille à se parjurer. Mm-hmm. C'est un texte de Gracien Gélinas qui est mis en scène par Jean-Philippe Joubert. Et je vais vous lire maintenant un article qui est paru dans Le Voir par Catherine Genet le 28 août, au-delà du huis clos familial.
OK.
La vie est une roue qui tourne. Jacques Leblanc est le dernier à avoir joué Bouzille en ville et c'est dans son théâtre, à sa demande, que le classique sera repris deux décennies plus tard. La mission confiée à Christian Michaud, celui qui jouera Bouzille, visage familier pour plusieurs piliers et théâtres à Québec. Cette pièce est écrite donc en 59, c'est une œuvre phare de Gracien Gélinas qui témoigne de l'ère Mad Men, mais au Québec, c'est-à-dire le temps où les hommes buvaient et découchaient et étaient cruels, notamment envers la gente féminine. Le metteur en scène détaille « La pièce a participé à faire surgir des pensées qui n'avaient pas cours dans la façon publique. Ce qui se passait, c'est qu'un mari et sa femme allaient voir ça à la Comédie-Française et tout d'un coup, le mari découvrait que sa femme riait des blagues des curés et sa femme découvrait que l'autre riait des comportements de fil, des trucs sur l'adultère, mm-hmm. pour utiliser un vieux mot. » Ils découvraient donc mutuellement qu'ils riaient d'événements dont ils n'avaient jamais parlé ensemble avant. Donc, ouais. C'était une occasion de parler finalement.
Adultère, c'est un vieux mot.
C'est Catherine Genet.
On dit quoi maintenant? Je m'excuse. Si adultère est un vieux mot, qu'est-ce qu'on dit maintenant pour remplacer le mot adultère?
Ouais, moi non plus, moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, si Bouzille et les Justes a si bien vieilli, c'est parce que son auteur abordait d'autres thèmes toujours terriblement actuels. La violence conjugale, l'intimidation, les erreurs judiciaires, la place des handicapés. Citation. « Ce qui est encore intéressant aujourd'hui, c'est cette idée de portrait d'une société qui largue, qui envoie sous l'autobus ses membres les plus faibles pour arriver à ses fins. Mm-hmm. » Joubert, le metteur en scène, a fait évidemment référence au rôle-titre campé par Christian Michaud, un homme bon, pur et souffrant d'un retard mental, certain qui se fait varloper par sa famille adoptive. Donc, c'est une reconstitution historique. L'intérêt de ce genre de reprise réside aussi dans une certaine réinterprétation du décor suggéré par l'auteur. Le metteur en scène et la scénographe Monique Dillon ont eu une belle idée audacieuse qui ne dénature pas l'œuvre originale. Mmh. Citation, « On voit tout l'hôtel de toute l'action qui se passe autour. » Le client de la chambre d'à côté, la personne qui passe dans la rue. Donc, l'idée de reconstituer l'environnement, l'histoire visuellement est là. C'est à l'aborder du 15 septembre au 10 octobre. Allez voir ça. C'est vraiment une pièce d'anthologie québécoise dont on peut être fier.
Et vous êtes bravo pour la chute, Charles. Mais vous êtes d'accord qu'on continue de remettre sur scène, de remonter sur scène ces vieilles pièces-là, de les remettre à l'honneur au goût du jour. Je vous parle de ça parce que je fais le parallèle avec la télévision où là, et le cinéma, on va ressortir une nouvelle mouture. Non, c'est à la télé du survenant, tout ça.
Oui. Ben, je pense que ça dépend vraiment de
la façon
de l'intention derrière ça, surtout. Là, ouais. J'ai l'impression que si y a de l'argent au bout du compte, souvent, c'est des choix économiques qui sont faits. Comme les Batman, tout ça, là, qu'on revoit. Je vois pas l'intérêt de les refaire. En effet, il y a des choses qui se démodent jamais.
Non, c'est vrai. Puis de toute façon, c'est une vogue en ce moment.
Et c'est un peu comme la mode aussi vestimentaire. On a tendance un peu
exactement.
À revenir à ce qui se passe.
Et les vieux groupes qui, tu sais, là, quand je vois, écoute, Metallica et CDC et compagnie. C'est
les Rolling Stones.
Ils sont tous là. On va justement faire une chronique musicale dans quelques secondes avec Jennifer. C'est tellement ridicule de vous appeler Jennifer. C'est comme si je vous appelais Charles.
Pourquoi pas.
Ça pourrait donner un style, Clotilde.
Clotilde. Et si les gens mettaient un H, ça ferait Cloth Hills, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent un H à Clotilde, alors qu'il n'y en a pas, mais alors Cloth Hills, hein, ce serait très joli. Alors, chère Jennifer, de qui nous parlez-vous?
On va repartir dans les découvertes musicales après Lana Del Rey, on va parler de Yannick Rieu.
Oh, le saxophoniste!
Exactement, et certains vont rester interloqués de découvrir ici les noms de Joe Grass et de François Lafontaine aux côtés du sax ténor le plus sérieux du Québec.
Ah, oui.
Mais leur intégration dans ce contexte jazz si particulier fonctionne à fond. Rieu fait mieux que jeter un pont imaginaire entre l'Occident et l'Orient. C'est comme une passerelle de cordage qui tangue au-dessus du vide dans des espaces inconnus, mais tout en groovant vraiment. Vous aurez compris que Dali n'a rien à voir avec le grand peintre excentrique et moustachu. Non, c'est le nom d'une ville du Yunnan séparée de Montréal par 12 heures de décalage et 5000 ans d'histoire. C'est aussi le nom de son album dont on va écouter un petit extrait dans un instant. Sachez que Rieu a fait plus de 10 tournées en Chine. Il a réalisé là-bas des enregistrements de musique traditionnelle qui s'imbriquent maintenant à ses propres compositions urbaines.
Okay.
C'est audacieux, un peu fou quand même, mais doublement réussi. Il va faire un lancement de son album en spectacle le 2 octobre au Lion d'Or à 21h30. Donc prenez déjà vos places parce que je pense que ça va partir très très vite. Et on va écouter tout de suite un petit extrait.
Honnêtement, au début, j'étais pas sûre au début. Hein, ça joue. Mais là, tout d'un coup, quand ça part, là, écoute, ça... encore un petit bout, tiens, allez. Qu'on aime ça beaucoup.
Quelle belle découverte. Merci,
oui.
Jennifer.
Merci beaucoup, Jennifer. Yannick Rieu, saxophoniste, qui nous revient avec cet album qui s'appelle, je vous le rappelle, Dali.
Exactement.
Maintenant, bah, tiens, puisqu'on parle de musiciens, musiciens poètes, musiciens écrivains, musiciens chanteurs, Thomas Ellman qui raconte l'Amérique, et lui, je peux vraiment angliciser son nom, Thomas, puisqu'il est franco-américain. Bon, il se défend bien de vouloir donner un cours d'histoire avec son spectacle, mais il puise abondamment dans la petite histoire de la conquête de l'Ouest. Monsieur Ellman, qui a pioché dans, nous dit Caroline Monpetit dans Le Devoir, dans l'histoire de l'Amérique, qu'en a tiré un espèce de beau filon d'or, un filon où se miroitent les grandes légendes de la ruée vers l'or. On est à la fin du 19e siècle, à la grande crise des années 30, des histoires où on parle des esclaves affranchis, vous savez, qui font des marteaux avec le métal de leur chaîne. C'est des histoires où les chercheurs d'or se convertissent en éleveurs de palourdes, où des hommes meurent au fond des mines, tandis que d'autres deviennent millionnaires. Voilà, tout cela, c'est la trame du spectacle Rêves américains, c'est bien au pluriel, que Thomas Ellman présente ce soir et demain au Théâtre Outremont, dans le cadre du FIL, du Festival international de littérature. Un spectacle de mots, mais aussi de musique, inspiré notamment de Thoreau, Steinbeck et d'autres. Mais on pourra aussi entendre des chansons folkloriques, qui sont souvent anonymes. mais qui ont porté l'histoire trouble de cette époque américaine jusqu'à nous. Mais il ne faut pas s'y méprendre, c'est bien du Thomas Hellman qu'on entend ici parce que l'artiste a écrit et réécrit, repris, mis en musique le tout pour en faire ce qui lui ressemble le plus aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je veux accueillir Thomas Hellman à mon émission des livres plein les oreilles, mais quand je lis des articles comme celui-ci, vraiment...
J'ai eu l'occasion d'entendre une de ses chansons dans le cadre de ses... Mais ça fait quelques années que j'ai entendu ça à la radio, ça fait quelques années qu'il fait des recherches là-dessus, et c'est vraiment... Il met vraiment du sien là-dedans. Là. Il reprend des classiques, si on veut, américains, des vieux classiques, mais il les francisise des fois. Des fois, il garde des portions anglophones. Il fait, c'est vraiment très
intéressant.
Bon.
On écoute un peu de Thomas Hellman.
Venir les mains vides, poitrine trouée sans raison, et repartir sans plus de raison. Les mains vides, poitrine trouée. De plus loin encore que la vague anonyme. De plus loin encore que l'étoile filante toute. Venir de l'on ne se souvient plus. Venir les mains vides, poitrine trouée. Poitrine trouée.
Et si vous ne pouvez aller voir Thomas Hellman ce soir ou demain à l'Outremont, à Montréal, sachez qu'il y sera de nouveau du 29 septembre au 3 octobre. Charles.
Oui, encore dans le cadre des Journées de la culture, je vous invite avec vos enfants à faire des cartes postales. C'est une activité bilingue et ça se déroule dimanche à l'extérieur. Mm-hmm. C'est un atelier de création de cartes postales originales avec l'artiste Lisanne Picard qui puise l'inspiration dans les paysages de Pointe-Claire à l'aide du dessin et du collage. En mêlant des découpages de photographies et des traits de crayon personnels, les participants pourront créer une carte postale parfaite à envoyer à un être cher. Donc, vous l'aurez deviné, c'est à Pointe-Claire.
Et c'est à Pointe-Claire.
Sur le chemin du bord du lac Lakeshore, c'est l'adresse 176, dimanche donc de 13h30 à 15h.
Et ça, c'est tellement beau dans ces coins-là, surtout si, comme on l'annonce, la fin de semaine s'annonce extraordinairement belle et même chaude. Les températures vont encore remonter en fin de semaine. Aujourd'hui, il fait un petit peu frais sur Montréal. Je ne sais pas comment c'est dans votre coin de pays. Mais ici, c'est un petit peu frais, mais ça va s'éclaircir dès ce soir et on annonce une super belle fin de semaine. Jennifer a quelque chose pour nous.
Et oui, en salle dès aujourd'hui, le film Scratch, pour son premier long métrage, Sébastien Grodon a combiné ses deux passions, le cinéma et le rap. Son amour de la musique qui intègre au récit fait penser à des films comme Dancer in the Dark. Et dans l'univers des films musicaux, le médium du rap est celui qui ressemble le plus à un dialogue, note le cinéaste en entrevue. Parce que ça reste percutant, ça reste du texte, je me suis dit qu'on allait pouvoir faire passer des émotions, peut-être supérieures, à travers les chansons. Le cinéaste y arrive par l'entremise d'un hip-opéra en trois actes qui prend la forme d'autant de styles cinématographiques. Ce procédé permet de mieux rendre compte de la réalité d'un jeune Haïtien qui a émigré dans sa famille dans un quartier pauvre de Montréal et qui tente de sortir de son milieu grâce à la musique. Le film illustre le parcours d'un être qui rêve grand pour survivre et qui apprendra beaucoup sur la vie. Le cinéaste dit « Je verse complètement dans les stéréotypes dans le premier acte pour que le spectateur soit saisi et qu'il porte ensuite une attention particulière au reste de l'histoire. » Il confie également qu'il admire beaucoup le travail de Stanley Kubrick et des frères Dardenne. Pourquoi ? Parce qu'à partir du deuxième et du troisième acte, on finit par toucher l'essentiel, c'est l'humanité des personnages. Et si on s'intéresse aux humains dans les histoires, au contenu et non pas au contenant, eh bien on finit par ne plus être dans les stéréotypes, on devient universel, dit-il. Scratch, il a été vraiment récompensé et acclamé au festival Fantasia, donc c'était cet été au mois de juillet. Et maintenant, eh bien, il est dans nos salles, donc allez-y, ça sort aujourd'hui.
Thank you.
Rémi, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, parce que le film dont parlait Jennifer me faisait penser à un film qui vient de France, c'est un petit réalisateur, Pascal Lavaux, si je ne me trompe pas, qui, pareil, retrace un peu le parcours d'une fille qui vient de Suisse, d'un quartier difficile, puis qui arrive en banlieue parisienne à Saint-Denis. Donc c'est un quartier pas très facile, mettons, c'est là où il y avait toutes les émeutes, notamment, etc. Où donc il y a une grosse culture urbaine qui se passe. Et ce film-là n'est pas très diffusé, en France quand même, oui. Mais en Amérique, pas du tout, mais il sera présent mercredi 30 à 17h dans le cadre du festival du film Black de Montréal.
Donc
ça me faisait penser à ça. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, dont moi.
Merci beaucoup, Rémi. Merci. Ce sera pas cher et ce sera un extraordinaire spectacle si le ciel est clair, si vous êtes capable vous-même de le voir ou peut-être de vous le faire commenter. On parle de la superlune qui va s'éclipser. Les astres seront alignés ce dimanche pour offrir aux terriens une éclipse totale de lune, entièrement visible au Québec. Cet événement, évidemment, qui est très peu fréquent, aura aussi de particulier qu'il se produira alors que notre satellite naturel sera au point de son orbite elliptique le plus rapproché de la Terre. Alors c'est pour ça que ce sera une éclipse de superlune. La dernière a eu lieu en 1964 et la prochaine, oula, elle est annoncée en 2033. On parle d'un alignement parfait finalement. Une éclipse lunaire, on le rappelle, ça se produit lorsque la Terre et le Soleil et la Lune sont alignés ou tout près de l'être. La Lune est plongée alors dans l'ombre de la Terre, évidemment, et c'est à ce moment que la teinte rougeâtre créée par l'éclairage de l'atmosphère terrestre est le plus perceptible, parce que c'est ce qui est à noter en ce qui concerne cette éclipse-là, c'est qu'avant que la Lune ne s'éclipse, elle sera rouge. Et vraiment, et ce phénomène est dû à la réfraction de la lumière provenant de l'atmosphère terrestre qui éclaire la surface lunaire et qui fait apparaître la Lune coloré. Alors, si vous avez l'occasion, le début du phénomène, ce sera à l'ouest qu'il faudra regarder, aux alentours de 20h11, alors que la Lune entre dans la pénombre de la Terre. À partir de 21h07, ce sera le début des phases partielles de l'éclipse, lorsque la Lune commence à entrer dans l'ombre de la Terre. À 22h11, pendant 72 minutes, la Lune se trouvera entièrement plongée dans l'ombre de la Terre. L'éclipse est alors totale et la Lune est complètement rouge. À 23h23, fin des phases partielles de l'éclipse, la Lune sort graduellement de l'ombre de la Terre. À 0h27, le satellite quittera la pénombre près d'une heure plus tard. J'espère que les cieux seront assez cléments pour qu'on puisse profiter de ce spectacle gratuit et je vous souhaite de pouvoir en profiter si la nature vous a doté de cela pour pouvoir en profiter. Jennifer.
Oui, et bien sachez qu'en ce début d'automne, il va y avoir pas mal d'expositions à voir et on vous propose, enfin le voir.ca propose un survol de quelques expositions à ne pas manquer. En effet, au musée des Beaux-Arts, le photographe américain de renom George Zimbel, qui a croqué le portrait de Marilyn Monroe, John Fitzgerald Kennedy, Harry Truman et Richard Nixon, s'intéresse davantage aux gens ordinaires, toujours armés de son appareil photo. Il aura le droit à son exposition avec le photographe humaniste, c'est le nom de l'exposition, installé à Montréal depuis plus de 30 ans. Ce photographe, dont les œuvres sont exposées à travers le monde, pourra mieux se faire connaître du grand public et surtout du public montréalais, parce que sachez que jusqu'au 3 janvier 2016, eh bien, il va exposer au musée des Beaux-Arts. Du côté de la Maison de la Culture, c'est l'artiste Magali Babin qui va revenir sur la tâche de présenter un récent projet intitulé « Prêtez l'oreille » qui présente le résultat de sa résidence d'artiste qui s'est déroulée au CHLCD Maison Saint-Joseph le printemps dernier. En repérant et en travaillant les paysages sonores présents sur place, l'artiste en a créé de nouveaux qui rappellent le milieu de vie et les souvenirs de ses résidents. Ses compositions sonores sont créées à partir d'extraits de musique populaire des années 50 et 60, ainsi que des chants, de voix, des bruits et des sons enregistrés au fil de ses déambulations dans les corridors et les chambres du centre de soins.
Oui.
Et ça, ce sera jusqu'au 11 octobre. Et une petite dernière.
À quelle maison de la culture ? Je m'excuse, Jennifer, je n'ai pas
alors,
compris.
Alors, c'est du côté de la maison de la culture Maisonneuve.
Ah, Maisonneuve.
Voilà,
d'accord,
et l'artiste,
merci.
C'est Magali Babin.
D'accord.
Et au musée McCord commencera une exposition consacrée à l'artiste affichiste montréalais d'origine italienne. Il s'appelle Vittorio Fiorucci, et il a une carrière qui s'échelonne déjà sur 50 ans, témoin de l'évolution technique et historique de l'affichage. 125 affiches, photographies, illustrations et bandes dessinées jetteront un regard particulier sur l'apport de ce créateur au répertoire ludique. Ça commence aujourd'hui. Et puis, bah, vous avez un petit peu le temps quand même pour la voir parce que ça prendra fin le 10 avril 2016.
Spectacle gratuit Anticosti pour marquer la fin des forages, figurez-vous. Le spectacle des Lost Fingers est organisé après l'annulation d'un spectacle qui devait être donné par les frères à cheval à Port-Meunier le 12 septembre dernier. Petrolia et Hydrocarbures Anticosti organisent ce samedi un spectacle gratuit du groupe Lost Fingers pour les citoyens de l'île d'Anticosti. C'est le devoir qui nous apprend cela. L'événement se veut un peu une façon de remercier les anticostiens, alors que s'achève la première phase des forages exploratoires financés en majorité, on le sait, par le gouvernement du Québec. Selon les informations obtenues, les promoteurs des travaux de recherche de pétrole invitent les résidents de Port-Meunier à la salle des Chevaliers de Colomb pour un événement unique et dont tous pourront profiter. Donc, les Lost Fingers gratuitement sur l'île d'Anticosti.
Le ciel se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de la mer.
On va s'aimer sur Anticosti, Charles.
Oui, dernière chance d'assister à une exposition au Musée de l'Amérique francophone à Québec, dans la cité Limoilou. Écoutez, c'est vraiment une belle exposition. En 1540, le roi de France veut étendre son royaume au Nouveau Monde, mm-hmm. ce qui est l'Amérique. Mm-hmm. Jusqu'ici méconnue, l'épopée de ces premiers Français d'Amérique se livre enfin. La passionnante découverte d'une page inédite de notre histoire fait vieillir le Québec de plus de 65 ans. Cette exposition originale et immersive met en valeur les artefacts et les recherches effectuées sur le site archéologique Cartier-Roberval. Au programme, récits sonores, création vidéo unique, première représentation du fort, scénographie multimédia et une centaine d'objets du 16e siècle. Vous pouvez plonger au cœur de ce pan méconnu de l'histoire. L'activité a lieu beau temps comme mauvais temps. Je le répète, c'est au Musée de l'Amérique francophone jusqu'à dimanche.
Merci beaucoup, Charles. Une autre petite brève pour nous finir ça, Charles?
Ben oui, toujours dans la même idée, là, à la même ville, à cité Limoilou, vous pourrez voir une exposition sur le Japon. En s'appuyant sur la remarquable collection d'art japonais, une des plus réputées du monde, et de peintures européennes et américaines, du Museum Fine Art Boston, Cette exposition, présentée en exclusivité canadienne, restitue toute l'ampleur de cet engouement de l'Occident pour la culture japonaise, un phénomène socioculturel sans précédent dans l'histoire de l'art qui a donné lieu à un profond renouvellement de ses pratiques artistiques. Ce sont près de 130 œuvres qui seront exposées, qui dressent un portrait de cet Occident envoûté par les charmes d'un Orient mythique. Donc, c'est jusqu'au 27 septembre également, des coûts d'entrée sont exigés. Vous pourrez y aller au Musée national des Beaux-Arts du Québec.
Merci beaucoup, Charles, et puis merci beaucoup aussi à Jennifer de m'avoir accompagnée durant toute cette heure. Je voudrais vous rappeler, on voudrait vous rappeler, bien sûr, que ce sont les Journées de la culture en fin de semaine. On ne peut pas... Moi, je vais revenir sur ces journées-là un petit peu plus tard à l'émission. Je vais vous donner aussi d'autres idées de sorties, mais on ne peut pas les citer toutes tellement elles sont nombreuses. Mmh. Je vous encourage donc à aller visiter le site Journée de la culture au pluriel, journée, bien sûr, .qc.ca. Merci, Jennifer. Merci, Charles.
Merci. À la semaine prochaine.